Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, peut-on mettre la spiritualité à toutes les sauces ? Les ouvrages de philosophie ne manquent pas de références empruntées aux productions culturelles. Qu'on y décortique les passions humaines et c'est Shakespeare qu'on convoque, ou Flaubert, Proust ou les grands compositeurs, des auteurs qui disent beaucoup, mais qui, objectivement, parlent à peu. Dans l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, c'est la culture populaire qui sert notamment de socle à une sorte de radiographie des états d'âme du XXIe siècle. Goldman, Souchon, Louane, des chanteurs et des chansons qui, modestement, thématisent des problèmes ordinaires. Il y est souvent question de quête de sens. Outil de diagnostic, ces chansons peuvent-elles aussi servir de support à une nouvelle spiritualité, à savoir une spiritualité venue d'en bas, issue des vulnérabilités de chacun, plutôt qu'imposée par le haut, que ce soit par les religions ou par des dogmes plus républicains. Cette approche est séduisante, mais colle-t-elle vraiment à la réalité dans un monde où la quête spirituelle la plus aboutie semble être aussi la plus meurtrière, celle qu'adoptent aujourd'hui les combattants de l'international djihadiste? Alors peut-on mettre la spiritualité à toutes les sauces? C'est notre sujet du jour. Et deux invités ce soir pour en discuter. D'abord, l'auteur de l'ouvrage que je mentionnais, ouvrage qui s'intitule « Pour une spiritualité sans Dieu » et publié chez Textuel. Et l'auteur, c'est vous, Philippe Corcuff. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon, engagé dans les gauches radicales, libertaires et altermondialistes. C'est comme ça qu'en tout cas, on vous présente, ou vous vous présentez d'ailleurs sur le blog que vous animez sur Mediapart, blog intitulé « Quand l'hippopotame s'en mêle ». Pour discuter avec vous, Jean-Pierre Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, poète, directeur de la rédaction de La Vie. Peut-être que pour vous situer, vous aussi, je dirais, je sais pas, politiquement ou intellectuellement, on pourrait dire chrétien de gauche revendiqué, mais peut-être que le terme de revendiqué, d'ailleurs, n'est pas très approprié.
Oui, ma culture politique de formation, elle est très éloignée de celle de Philippe Corcuff, puisque c'était plutôt une culture rocardienne, mais on est dans un monde qui bouge beaucoup avec des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'époque où nous avons été formés intellectuellement, et j'aborde, j'avoue, cette idée d'une spiritualité sans Dieu avec une forme de bienveillance sympathique et critique.
Bon, puisque vous avez lu l'ouvrage de Philippe Corcuff, alors je vous propose, comme on le fait assez souvent d'ailleurs dans cette émission, de commencer par faire un petit peu de théorie, en tout cas de définition des termes dont on parle, et le terme qui est central ce soir, c'est celui de spiritualité. Ça recouvre quoi pour vous, ce terme de spiritualité, Philippe Corcuff?
Bien, pour moi, je lui donne un sens sécularisé. Au départ, si on suit l'étymologie, spiritualité a plutôt à voir au XIIe siècle avec l'âme, opposée d'ailleurs plutôt au corps ou à ce qui est matériel, et a plutôt des usages théologiques. Et puis peu à peu, le sens va prendre parfois des usages, disons, non spécifiquement religieux ou philosophique, et c'est pour ça que moi je m'inscris là-dedans en parlant d'exploration du sens de l'existence et des valeurs de l'existence. Alors, ça se rapproche d'une définition large de ce qu'on peut appeler éthique, mais il y a beaucoup d'usages ordinaires d'éthique qui sont beaucoup plus restreints que poser la question du sens. Je me réfère à la définition de l'éthique que donne Ludwig Wittgenstein dans une conférence célèbre sur l'éthique. Et donc, mon point de vue, c'est que cette question du sens qu'on trouve notamment dans les chansons ordinaires, dans les séries télé, dans les films, la question des valeurs qu'on accorde aux choses, qui est indissociablement individuelle et collective, elle n'appartient pas nécessairement aux religions, bien qu'elle ait été beaucoup travaillée dans les cadres théologiques.
Jean-Pierre Denis, est-ce que pour vous, c'est une notion qui relève essentiellement, au contraire, de la religion, voire exclusivement?
Vous savez, je ne peux pas oublier qu'on est à 2 jours de la fête de Pentecôte, qui est une fête chrétienne importante, et qui est la fête de l'esprit. Et le problème, c'est que d'ailleurs, les chrétiens eux-mêmes ont un petit peu oublié l'importance dans la Trinité de cette figure de l'esprit. Ils savent à peu près, ou ils croient savoir, qui est Dieu le Père. Ils ont une petite idée de qui est le Fils, Jésus-Christ, mais alors l'esprit, le souffle. Tout ça, c'est quelque chose qui est passé aussi un petit peu derrière. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est d'une religion animé par un souffle. L'homme est un animal spirituel, mais effectivement, c'est pas nécessairement quelque chose de religieux au départ ou d'expressément lié à une théologie. Bah, au fond, l'homme de Lascaux, quand il peint sur les murs de sa grotte, c'est un homme spirituel. Est-ce que c'est pour autant un homme religieux? C'est pas sûr. Moi, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis poète. Dans une poésie sans spiritualité, ce n'est plus déjà presque plus de la poésie. Ce sont des jeux abstraits. L'amour, à moins d'être simplement de la pornographie, suppose une spiritualité. Le baiser, c'est un acte spirituel aussi. Donc l'homme est un animal spirituel. En revanche, évidemment, la question que je me pose toujours, c'est celle d'une forme de... Allez, on peut dire de mode qui consiste à enlever de la religion ce qui dérange, ce qui est un petit trop dur, ce qui engage, pour ne garder quelque chose d'un petit peu light et d'un petit peu indéfini.
Ce qui est peut-être pas d'ailleurs votre cas, Philippe Corcuff, parce que alors je rappelle le titre, on va aller évidemment dans ce qu'il y a dans l'ouvrage, mais vous n'écrivez pas un livre qui s'appelle Pour une spiritualité sans religion, mais sans Dieu, et sans Dieu d'ailleurs sans majuscule et au pluriel, ce qui veut dire que vous n'excluez pas forcément la religion et que les dieux dont vous parlez ne sont pas forcément des dieux religieux.
Oui, la question des absolus est pas simplement religieuse. Ce que je remarque, c'est que les absolus ont tendance à produire, disons, des assassinats, des meurtres de masse, etc. Que ça soit dans le cadre religieux ou, si on prend, disons, le stalinisme, c'est une forme de référence à un absolu qui a produit énormément de morts, et sans référence à la religion. Dans mon espace politique de la gauche radicale et anarchiste, on a tendance à penser que tout le mal vient des religions, alors qu'il y a beaucoup d'absolus laïcs qui ont produit des effets extrêmement délétères aussi. Donc le problème, c'est le rapport aux absolus, et d'intégrer la question de la fragilité et de mettre entre parenthèses cette question de Dieu. Mon positionnement est plutôt agnostique, et donc ça, ce qui signifie qu'il est ni religieux mais ni anti-religieux, comme souvent, disons, les formes d'athéisme militant.
Donc ce serait plutôt une spiritualité dépourvue d'absolu pour laquelle vous plaidez ?
Oui, qui mettent entre parenthèses les absolus et qui repartent des fragilités ordinaires et des fragilités humaines. Et en même temps qui se... déface un peu de cette tendance, on a parlé de la mode à la spiritualité, du marché éditorial, du développement personnel, ou de philosophes que je critique comme André Comte-Sponville ou Luc Ferry ou d'autres qui vendent d'une certaine façon des techniques spirituelles, où il y a une sorte de marché de la sagesse qui est problématique.
Jean-Pierre Denis.
Oui, c'est ce que Jean-Louis Schlegel, le sociologue, appelle les spiritualités pour le week-end dans le dernier numéro d'Esprit. Effectivement, alors moi j'ai un peu tiqué tout à l'heure quand vous avez parlé de quête spirituelle meurtrière. Moi j'ai envie de dire plutôt de mon point de vue, ce n'est pas les quêtes spirituelles qui sont meurtrières, ce ne sont pas les absolus qui sont meurtriers. Ce qui est meurtrier, c'est la religion sans spiritualité. C'est l'absolu sans spiritualité. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas si loin.
Et donc, et moi, une religion, la spiritualité sans absolu, Jean-Pierre Denis, c'est quelque chose qui vous paraît concevable?
La religion sans spiritualité, c'est une idéologie, et c'est une idéologie qui est effectivement rapidement meurtrière. Et effectivement, et on est évidemment d'accord là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la religion, et qui est propre à une absolutisation de l'absolu, ou une appropriation de l'absolu, ce qui est évidemment le péché mignon de l'être humain, quelle que soit sa religion ou son absence de religion. Donc ça, c'est évident. En revanche, la spiritualité sans religion, ben vous l'avez dit vous-même, souvent, ben, ça tourne au business, ça tourne à une quête de sens à la fois sympathique, mais qui n'arrive pas à prendre corps. Donc, et ça tourne finalement au triomphe du marché, parce que au fond, ce que veut le marché comme absolu, justement nouvel absolu aujourd'hui, c'est d'éliminer tout ce qui peut faire obstacle et tout ce qui peut pas être vendu, tout ce qui n'a pas une valeur marchande. La spiritualité, pour moi, c'est une résistance à la marchandisation de l'être humain.
Philippe Corcuff.
Moi, je dirais que la spiritualité marchande, elle marche d'une certaine façon parce qu'elle répond à une demande de déspiritualisation. En même temps, elle provoque sans arrêt l'insatisfaction. Je me rappellerai toujours de quelqu'un que, à l'époque, j'étais militant du nouveau parti anticapitaliste, c'était ses débuts. Et il y a une militante qui n'avait jamais été dans une organisation qui vient nous voir et qui dit avant j'ai essayé développement personnel et maintenant je voudrais essayer le NPA. Bon. Alors, on voit bien que ce type de réponse mécanique, ces techniques, ça ne marche pas, ça crée plutôt de la déception. Et alors peut-être qu'il faut revenir à nos expériences ordinaires, à l'expérience de nos vulnérabilités, à la façon dont on peut poser nous-mêmes les questions. Et après, ça pose la question, à quoi sert un intellectuel professionnel comme moi par rapport à ça? Évidemment, je m'éloigne complètement des prophètes qui donnent la solution. De toute façon, ces solutions qui sont à construire collectivement et individuellement par les personnes elles-mêmes dans un cadre démocratique, disons, ne peuvent pas être construites par un gourou et ça ne provoque, disons, soit des catastrophes, soit des déceptions.
Alors, ces expériences de nos vulnérabilités ordinaires, on peut notamment en avoir certaines traductions dans la chanson, dans la variété française, comme par exemple cette chanson.
Les âmes en peste lient en lit. Dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil. Tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman.
Voilà, large extrait d'une chanson, Maman, interprétée par Louane, qui est une jeune chanteuse qui a beaucoup de succès, notamment auprès des adolescents. C'est un des exemples que vous prenez, Philippe Corcuff, au début de votre ouvrage. Et vous dites à propos de cette chanson qu'il y a une quête de sens qui s'enfonce dans le brouillard en étant accompagnée de notes mélancoliques. Est-ce que pour vous, les chansons, elles servent avant tout finalement à diagnostiquer ces vulnérabilités dont vous parliez, ou elles apportent aussi des réponses à ceux qui les écoutent?
Elles apportent en tout cas un appui, une ressource pour verbaliser ces problèmes. Je me rappelle, j'ai fait une étude de réception il y a longtemps en tant que sociologue sur une série télévisée qui s'appelait Ally McBeal dans la fin des années 90, américaine. Et une des personnes qui était fan de cette série que j'interrogeais, qui était un milieu social beaucoup plus modeste, femme de ménage que ceux de la série, me disait, eux, ils m'aident à mettre des mots sur mes sentiments. Bon. Et donc, c'est aussi un outil pour construire, disons, son rapport à l'expérience. Et j'aurais pas cette vision, disons, un peu manichéenne d'une partie de la théorie critique qui voudrait que tous les produits des cultures ordinaires et populaires soient des formes d'aliénation, d'abêtissement, etc. Je pense que là, il y a des stéréotypes qui ne fonctionnent pas bien par rapport à la façon dont les gens bâtissent, disons, le sens de leur existence. Mais ça peut se faire, disons, cette quête qui est souvent mélancolique, ça peut se faire, disons, dans des variétés de styles. Moi, j'aime beaucoup Eddie Mitchell, par exemple, j'en parle dans le livre. Il y a cette quête, disons, de bar en bar, d'incertitude sur l'existence qu'on trouve dans les chansons d'Eddie Mitchell. On le trouve avec rugosité dans la confrontation avec les difficultés sociales et raciales dans le rap. Et donc, dans une très grande variété de genres musicaux et de chansons, on trouve cette quête avec cet élément mélancolique qui est important. Et je rappelle que on a tendance à penser que la mélancolie, c'est le noir, l'enfoncement dans la nostalgie, etc. Je distingue mélancolie de nostalgie et je rappelle que la définition que donne l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert de la mélancolie, c'est le sentiment habituel de notre imperfection. Et donc la mélancolie a à voir avec l'appropriation de notre propre faiblesse d'une certaine façon. Pas forcément l'enfoncement dans le noir.
Jean-Pierre Denis, les textes des chansons de variété on peuvent avoir autant de valeur finalement que des textes plus savants, voire plus sacrés dans ce qui est cette quête spirituelle dont on parle ce soir.
On a entendu des extraits d'une très belle chanson qui est extrêmement émouvante et touchante pour peu qu'on se donne la peine de l'écouter. Et moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit, et je voudrais pas que vous le preniez comme péjoratif, c'est le mot pathétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... On voit bien que cette recherche cherche là, qui s'exprime, qui se cherche, qui dit dans la chanson d'ailleurs qu'elle n'arrive pas à trouver son chemin, elle a quelque chose, oui, de pathétique, mais au sens noble que peut avoir ce mot, parce qu'elle n'arrive pas à trouver son débouché. Et elle est condamnée à chercher à rester dans ce brouillard-là. C'est peut-être en grande partie la condition de l'homme d'aujourd'hui, et ça, j'en prends acte. Et l'autre versant, c'est que cette culture populaire, je suis obligé de reconnaître que tout le monde s'est mis d'accord pour l'expulser. L'intelligentsia laïque, à partir de la pensée des Lumières, s'en est défiée comme de la peste, mais l'Église catholique n'a pas été en reste. Elle a cherché à éliminer par tout moyen la religiosité populaire avec ses manifestations de processions, d'ostensions. Il y a ce week-end les ostensions limousines qui font partie du patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO, mais ce sont des réalités qui ont été plus ou moins méprisées par la pensée savante. Donc la retrouver, repartir de là, c'est assez touchant, mais c'est vain si ça ne va pas, pour moi, de mon point de vue, quelque part.
Alors justement, ça va où cette religiosité populaire, Philippe Corcuff? Je ne sais pas si d'ailleurs c'est un terme auquel vous adhérez, mais ça sert à quoi et ça va où?
Donc, je préférerais spiritualité populaire. C'est-à-dire que, en fait, il me semble que à la fois, il faut tenir compte des idéaux des sociétés démocratiques, à la fois de l'égalité des personnes, de leur libre arbitre, de leur rapport critique aux expériences ordinaires. Et donc, pour moi, religiosité, ça renvoie trop à la façon de coller à quelque chose. Alors que, en fait, si on veut construire quelque chose, il faut mettre un peu de distance. C'est pour ça que je pense qu'il y a un rôle de l'intellectuel de métier dans cette vision, c'est-à-dire aider, c'est ce que j'appelle l'appui méthodologique, aider à reformuler les questions et les problèmes, et non pas pour que chacun fabrique ses solutions individuelles et collectives. Par exemple, c'est reproblématiser les rapports entre liens sociaux et individualité, même solitude. C'est reproblématiser les liens entre absolu et relatif. Reposer la question des repères temporels entre passé, présent et avenir. Donc, mon propos, c'est de donner des pistes pour, aider à reformuler autrement les questions qui aident, disons, les personnes dans cette quête spirituelle, mais qui ne se substituent pas à elles, disons, contrairement à la figure, disons, du gourou spirituel ou du philosophe roi.
En renvoyant ces questions à chaque individu, Philippe Corcuff, et en le mettant sur le thème de la spiritualité davantage que sur la religiosité, est-ce que on ne perd pas, par exemple, une notion qui peut être celle de la ferveur et qui permet aussi de passer à un niveau plus collectif, c'est-à-dire quand, par exemple, puisque la grande famille politique à laquelle vous appartenez ambitionne aussi de changer la société. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une ferveur? Est-ce qu'elle n'a pas besoin à un moment donné d'avoir des gens qui sont des guides ou en tout cas des rassembleurs de ces vulnérabilités individuelles pour en faire quelque chose de plus commun?
C'est-à-dire que il faut plutôt reproblématiser ce problème entre l'individualité qui est une valeur, disons, forte de la modernité et les cadres communs. Et si on voit les choses en sociologue, on voit bien que chaque individualité est fabriquée avec du commun déjà, avec des liens sociaux nécessairement, et que la monade isolée, l'individu complètement auto-institué, ça n'existe pas. Bon, à partir de cette insertion dans des rapports sociaux, il y a des éléments de distanciation individuelle, d'autonomisation individuelle qu'on ne doit pas abandonner. Et je me méfie énormément aujourd'hui des théoriciens contemporains qui sont en fait des théoriciens de la fusion dans le tout commun, qui écrase les individualités. Je pense un des plus populaires aujourd'hui avec Nuit debout, c'est Frédéric Lordon dans le livre Imperium, est vraiment la théorie de la fusion, de l'appartenance collective contre l'individu.
Jean-Pierre Denis.
Oui, alors on est quand même aujourd'hui dans une époque où on est allé au bout me semble-t-il, de ce cycle dans lequel l'individu a été libéré de toutes les appartenances, de tous les déterminismes, de toutes les aliénations, pour prendre le vocabulaire qui a dominé la pensée depuis un demi-siècle. Et maintenant, l'individu est tout seul, il est tout nu, il est tout à fait libéré, mais il est aussi assez déprimé. Il a pour horizon, éventuellement, le suicide assisté ou des réalités qui vont achever de le libérer. Et donc, cette situation de l'individu qui est parfaitement nu, parfaitement seul et qui essaie de se reconstruire, elle a un côté qui, je disais tout à l'heure, qui tout à l'heure touchant. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de domaines, que ce soit la peinture, que ce soit la poésie, que ce soit la musique, que ce soit la politique, en fait, ou la religion, toutes les institutions sont par terre. Et donc, on est à une époque où on est en train de se promener au milieu de ce champ de ruines et on ramasse des petites choses, des petits bouts, des petits morceaux de ces ruines, et on se demande ce qu'on va en faire. Alors, le mot spiritualité, c'est une pincette pour le prendre en faisant bien attention et en disant « attention, je ne suis pas en train de reconstruire un grand monument ». Moi, je pense que c'est un bon début. C'est un début encourageant. Mais ça reste, pour l'instant, quelque chose d'assez limité. Mais c'est propre à l'époque, parce que vous avez parlé de brouillard, et on est dans cette époque, malheureusement, qui est encore une époque de brouillard. C'est pour ça, d'ailleurs, que les promesses de grand soir type Nuit debout n'arrivent pas à déboucher sur quelque chose et finissent par s'étioler.
Enfin, ça, on verra bien. C'est encore récent, en tout cas, ce moment Nuit debout. Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui, par exemple, puisque dans les cadres ou dans les socles qui ont été proposés ces derniers mois, et notamment suite à cet événement totalement traumatisant qu'auront été les attentats de janvier 2015, et puis ensuite ce de novembre, mais surtout après janvier, on a beaucoup parlé des valeurs républicaines comme pouvant justement servir de base à la reconstruction d'une société. Est-ce qu'il y aurait une spiritualité républicaine, par exemple, c'est-à-dire sans forcément leader, sans guide spirituel, mais qui permettrait justement d'associer toutes ces spiritualités individuelles, Philippe Corcuff?
D'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir un panorama trop pessimiste de ce qui se passe dans la société. Moi, je ne crois pas trop à l'individu complètement isolé. En fait, l'individu est inséré dans des rapports sociaux. Je suis plutôt dans la sociologie qui va, disons, du XXe siècle, Georges Simmel en Allemagne, jusqu'aux travaux de la sociologie de la famille de François de Singly, qui montre que la particularité actuelle, c'est qu'on a eu un affaiblissement de ce qu'on peut appeler les liens forts, quelques liens forts qui nous tenaient, comme la famille, la religion, et une multiplication de liens faibles, bon, qui nous relient les uns aux autres. Bon. Et alors, cette multiplication des liens faibles, ça ne crée pas du tout un individu isolé, mais ça crée beaucoup plus d'incertitudes, de doutes, etc. Et donc c'est par rapport à ça qu'on doit s'orienter, mais pas avec l'idée que on aurait en fait le choix entre la solitude ou la société fusionnelle, disons. À partir de là, les valeurs, je dirais pas seulement les valeurs républicaines, mais il y a des valeurs qui ont été travaillées d'ailleurs dans les cadres religieux, puis dans les Lumières. La valeur d'humanité a été travaillée dans les Lumières, mais avant a été travaillée dans les cadres religieux. L'idée de commune humanité, l'idée de raison, l'idée de progrès, je parle de l'idée de laïcité, ces notions, disons, créent non pas un rassemblement autour d'un tout, mais ce dont on a besoin, c'est des intersections. Parce que si on part d'une spiritualité qui va vers le bas, on part pas de quelque chose qui va nous englober a priori, et dans lequel on va s'intégrer, donc le vocabulaire de l'intégration me semble un mauvais vocabulaire pour rentrer les choses dedans, mais au contraire, on a besoin d'intersections, d'espaces communs, et en même temps de moments d'autonomie personnelle, de moments de solitude, etc. C'est ce que les gens vivent dans leur famille quotidiennement, dans les familles recomposées, etc. C'est-à-dire, la question qui se pose quotidiennement, c'est est-ce que l'enfant va avoir une chambre à part ou pas, qu'est-ce que dans l'occupation de l'espace, qu'est-ce qu'il va avoir aux uns et aux autres, à l'individu seul et aux relations familiales. Et c'est des questions tout à fait ordinaires et qui sont beaucoup plus intéressantes que les choses que nous racontent Luc Ferry ou André Comte-Sponville pour reconstituer la spiritualité.
On en conviendra volontiers. En revanche, moi je me méfie un petit peu du discours sur les valeurs, parce que le discours sur les valeurs, vous savez, les valeurs ça monte et ça descend à la bourse des valeurs, donc les valeurs, c'est les gens qui brandissent les valeurs sont souvent pincés quelques temps après la main dans le sac, comme ces candidats républicains qui défendent les valeurs familiales et que on pince dans les toilettes d'un aéroport avec quelqu'un qui n'est pas leur femme.
Il y en a quelques-unes qui sont quand même un peu plus solides que d'autres.
Alors, les valeurs humanistes, par exemple. En revanche, je crois qu'évidemment, il existe une spiritualité républicaine. C'est ce que j'ai éprouvé en descendant dans la rue après les attentats de janvier. On sentait une forme de communion. C'est un mot qui évidemment résonne d'une manière particulièrement pour moi, mais qui a une acception beaucoup plus large. On sentait une forme de communion. Quand on lit Victor Hugo, et je ne parle pas de Victor Hugo poète, je parle de Victor Hugo homme politique, quand on lit Jaurès, on voit bien que leur démarche politique est aussi en grande partie sous-tendue par une démarche spirituelle, qui d'ailleurs n'est pas totalement, en particulier chez Victor Hugo, mais même aussi chez Jaurès, n'est pas totalement détachée de la religion. Donc oui, évidemment, il y a une spiritualité républicaine, et c'est bien ça le problème d'ailleurs pour quelqu'un comme François Hollande, parce que quand François Hollande base son discours sur l'inversion de la courbe du chômage, en pensant que c'est de ça qu'il s'agit, oui, évidemment, il s'agit de ça, évidemment, tout le monde attend que la courbe du chômage
chômage s'inverse, mais il s'agit pas d'un... la promesse de la politique n'est pas d'inverser une courbe. Et c'est là l'erreur, à mon avis, de François Hollande, justement d'avoir sous-estimé cette dimension spirituelle.
Philippe Corcuff.
Oui, je pense que l'ordre marchand qui est dominant aujourd'hui, capitaliste, provoque une certaine dessèchement du spirituel à cause de la domination de l'argent roi. Et que l'univers politicien des professionnels de la politique, et même au-delà, de la droite, de l'extrême droite, de la gauche, jusqu'aux organisations de la gauche radicale, il y a une sorte de redoublement politicien de ce dessèchement spirituel. Avec un problème particulier qu'a bien pointé récemment Jean Birnbaum, qui est le problème de la gauche avec la religion, qui semble lui empêcher de traiter les enjeux spirituels à cause de ce rapport difficile à religion auquel ils ont assimilé toute spiritualité. Et donc, face à des choses comme les attentats, évidemment, les hommes politiques... et les organisations en général sont complètement à côté de la plaque de ce que vivent les gens, que ça a été en janvier ou en novembre. De ces moments partagés, oui, moi ça me gêne pas de parler de communion à un moment donné. C'est pas une fusion des gens dans un cadre intemporel, c'est un moment partagé à un moment donné autour de certaines repères éthiques. Hein. Moi, je préfère parler de boussole par rapport à la question des valeurs. Et donc là, il y a, disons, un manque spirituel dans la politique, disons, de l'extrême droite à l'extrême gauche aujourd'hui, qui est terrifiant, même pour ceux qui prétendent répondre au dessèchement, disons, spirituel provoqué par le capitalisme.
Il y a peut-être un personnage qui incarne, on va dire, le contre-exemple à ce que vous venez de décrire, Philippe Corcuff, que beaucoup placent à gauche. Lui-même, je crois, il pourrait éventuellement assumer ce qualificatif-là, c'est le pape François. Est-ce que le pape François, finalement, pourrait répondre à cette question de se dire, voilà, comment on rebâtit une spiritualité un peu plus collective à partir de spiritualité individuelle.
Alors, le problème, c'est que dans le discours du pape François, il y a à la fois des repères, disons, éthiques qui redonnent de la spiritualité dans les questionnements de société et politique. Et en même temps, il y a un chef d'église, d'une institution religieuse, qui, disons... reprend une logique, disons, de la morale moralisatrice, notamment sur le plan des mœurs, qui est complètement décalage avec nos sociétés démocratiques. Donc il y a les deux choses dans le pape François. Et j'essaye justement de distinguer la question de la boussole éthique du moralisme. Il s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire en fonction de critères intemporels, mais de leur donner des repères qui leur permettent de s'orienter. Et les repères qu'on a pour s'orienter, ils ne nous disent pas où il faut aller, parce que les situations sont à chaque fois complexes, individuelles, collectives, etc. Mais c'est simplement une façon de s'orienter dans le brouillard. Et donc, je pense qu'on aurait, par rapport à la morale moralisatrice, par rapport, à l'impératif catégorique kantien, aussi dans les morales laïques, on aurait intérêt à se déplacer vers l'idée de la boussole individuelle et collective. Parce que les repères dont on a parlé tout à l'heure, humanistes, c'est pas chaque individu qui les fabrique. C'est bien des fabrications collectives. Et que donc, dès le départ, dans l'orientation individuelle, il y a des repères collectifs.
Hein. Jean-Pierre Denis.
J'avoue que pour écouter quand même assez avec beaucoup d'attention, comme vous vous en doutez, le pape François, je ne l'ai jamais entendu faire, je dirais, la morale et encore moins la morale moralisatrice, même si le mot moral, personnellement, ne me fait absolument pas peur. À la différence du mot valeur, la morale, c'est quelque chose qui nous engage. En revanche, on se souvient des premières expressions qui avaient tellement frappé d'ailleurs l'opinion publique quand le pape François avait dit, là c'est cette phrase qui me paraît, qui a été tellement importante pour son pontificat, qui suis-je pour juger ? En revanche, moi, et là il y a, je pense, sans doute évidemment un vrai point de désaccord, je pense qu'on a besoin de figures. Et on a besoin. Pourquoi d'ailleurs le pape François est si populaire? C'est parce que justement il y a une absence totale de figure. Et pourquoi on a besoin de figure? Pas parce que on est des petits enfants et qu'on a besoin de nous faire le catéchisme, mais parce qu'on a besoin d'avoir un corps. Et c'est là que on aura évidemment un vrai désaccord. Et le christianisme, contrairement à ce qu'on dit, et ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, ce n'est pas une religion qui a la détestation du corps. Au contraire, en fait, c'est l'idée que pour moi, une spiritualité qui n'a pas de corps est une spiritualité qui a vocation à s'étioler finalement assez rapidement parce qu'elle n'est pas incarné dans quelque chose qui engage. Et c'est là que la religion, pour moi, revient et apporte un socle qui est nécessaire.
Mais ça doit être une incarnation pour vous qui doit être une incarnation dans un personnage, enfin en tout cas dans un nombre limité de personnes.
Je constate, et d'ailleurs c'est vous qui avez pris l'exemple du pape François, je constate oui. qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de figures, et c'est d'ailleurs tout à fait regrettable, qui soient capables de donner, alors pour reprendre le vocabulaire de Philippe Corcuff, de donner ses repères et pour nous aider à nous situer sur ce champ. Et de fait, le pape François est devenu... Allez, la conscience universelle, une espèce de conscience planétaire dans laquelle des gens qui sont à la fois chrétiens comme des gens qui ne sont pas chrétiens à partir de laquelle ils vont pouvoir se repérer.
Bon, ce qui est vraiment intéressant en tout cas dans cette discussion, enfin il y a plein de choses qui le sont hein, d'ailleurs, mais c'est que quand on parle de spiritualité, finalement on arrive aussi à des thématiques qui sont extrêmement commentées actuellement, qui sont la question de la crise de la démocratie finalement, la démocratie participative, démocratie totale, démocratie représentative. Est-ce que la réflexion sur la spiritualité, ça peut être une aide pour réfléchir à comment on fait évoluer, comment on renouvelle la démocratie, Philippe Corcuff?
Je pense qu'on ne prend pas assez au sérieux, disons, les idéaux démocratiques. Moi, je ne pense pas qu'on vit dans des démocraties, je pense qu'on vit dans des états de droit à tendance oligarchique qui ont des idéaux démocratiques. Et donc, le problème, c'est de faire vivre davantage dans la réalité ces idéaux démocratiques. Ces idéaux démocratiques nous poussent justement à donner plus d'importance à la fois à la perspective d'autogouvernement de soi et d'autogouvernement des collectivités humaines. Et d'ailleurs, qu'on trouve ça aussi bien chez Rousseau que dans la pensée, disons, démocratique américaine, comme chez Emerson ou Thoreau, on voit là ce lien entre l'autogouvernement de soi et l'autogouvernement des collectivités et du peuple, qui est le premier autogouvernement de soi est oublié aujourd'hui en général. Bon, et cet élément a besoin, évidemment, de poser la question du sens et des valeurs, et donc elle a une composante spirituelle. Mais cette composante spirituelle, si on prend au sérieux la démocratie, et si on prend plutôt le parti de la démocratie dans nos sociétés qui ont de fortes tendances oligarchiques, ça suppose donc de partir de la vie ordinaire et de ne pas trop vite déléguer à des gourous qui vont nous donner le sens, soit des dirigeants qui vont nous indiquer quelle est l'orientation. Je ne pense pas qu'on puisse éviter totalement l'incarnation dans des personnes, mais je pense plus facilement à la figure du héros antique. C'est-à-dire, le héros antique ne nous dit pas où on va, c'est pas un guide, mais l'important c'est qu'il fait des actes extraordinaires qu'on va essayer d'approcher comme un héros de la résistance, etc. Et donc ça change complètement, soit aujourd'hui des formes, disons, décomposées, la vedette, l'homme politique providentiel, etc. Mais ça change du guide aussi, c'est un autre rapport à l'incarnation, à mon avis.
Ce que vous dites d'ailleurs fait écho à un livre que vous connaissez bien, puisqu'il a été publié également chez Textuel, qui est signé Emmanuel Cervera-Marzal, qu'on recevait il n'y a pas très longtemps, avec un titre un petit peu provocateur, « Faut-il suicider, pour un suicide des intellectuels ?» Je crois, c'est-à-dire voilà, c'est l'idée que l'intellectuel donne les outils, mais c'est pas lui qui fabrique la maison.
Ni les intellectuels, ni les professionnels de la politique, ni les chefs religieux, ni les chefs spirituels n'ont à donner la direction. On ne doit pas les suivre. Par contre, on peut s'incarner dans des actes, dans des pratiques, dans des choses qu'on trouve plus élevées. On admire Martin Luther King, on admire Mandela. J'admire Rosa Luxembourg, etc. On a des figures comme ça, donc ça s'incarne, mais ça s'incarne dans des actions qui sont belles, mais on suit pas un guide.
Mais je vous rassure, moi en tant que catholique, je ne suis pas un guide qui serait par exemple le pape, je ne suis pas là pour être un godillot dans un parti politique. J'aurais tendance la religion chrétienne consiste à suivre le Christ et à pas à suivre le pape. Donc on n'est pas du tout, et justement cette différence elle est plus que fondamentale. Donc sinon c'est de l'idolâtrie et évidemment on est plus dans la religion authentique. Vous parlez des héros, moi je peux parler des saints. Et d'ailleurs pendant l'essentiel de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui fait le saint? C'est la vox populi, en fait. C'est la reconnaissance de cette figure par la communauté dont il est issu, dont il est le chef et dont il est parfois, dans laquelle il est parfois le martyr. Donc le saint se fabrique par la base, en fait, dans l'essentiel de l'histoire de l'Église.
Ah, c'est pas imposé par le clergé,
non,
pas par la hiérarchie.
C'est la reconnaissance de la figure qui fait le saint et qui ultérieurement va être reconnue par l'Église. Après, dans le système catholique, catholique. Il y a une forme de légitimation a posteriori, puis d'institutionnalisation et peut-être de bureaucratisation qui fait que petit à petit, le saint est fabriqué d'une autre façon aujourd'hui. Mais on peut dire que fondamentalement, quand on regarde l'histoire du christianisme, c'est l'incarnation, la reconnaissance de la sainteté. Elle est d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des toponymes, des villes, des villages de France, on voit bien que ça vient de là, ça vient du local, ça vient de ce qu'on appellerait aujourd'hui la base, que je préférerais appeler la communauté en tout cas.
Dans les crises qui nous font face aujourd'hui, celle qui est peut-être la plus dangereuse, la plus menaçante, Philippe Corcuff, c'est la crise écologique. Est-ce que la spiritualité, là, peut être d'un quelconque secours? Certains commencent à parler d'éco-spiritualité, c'est-à-dire là, on va même au-delà de la question de l'humanisme, mais d'englober l'humain comme une partie parmi d'autres du monde du vivant.
Oui, dans les chansons dont je parle, il y a une chanson de Mickey 3D qui s'appelle Respire, qui pose cette question, c'est-à-dire que la question du sens et des valeurs de l'existence humaine, l'écologie politique nous a permis de la poser autrement en nous posant la question des rapports des humains avec les autres êtres vivants et plus globalement avec l'avenir de la planète. Et que donc la question du sens ne peut pas se séparer, disons, du cadre aussi naturel dans lequel on est situé. Donc il y a une composante écologique, disons, à une nouvelle spiritualité. Par contre, évidemment, j'adhérerai pas à des nouvelles formes de spiritualisme un peu marchand, même avec des personnages sympathiques comme Pierre Rabhi, qui, d'une certaine façon, donne une forme de religiosité au rapport aux éléments naturels. Et il me semble que ça nous fait sortir un peu, au moins, d'appui, sur la distanciation critique et sur la raison critique. C'est-à-dire, il y a toujours la tentation de rester de construire une autonomie individuelle et collective qui n'adhère pas à des formes qui pourraient être autoritaires. Et donc, il y a toujours cette mise en garde, cette vigilance importante.
Alors, je sais pas si Nicolas Hulot appartient à cette religiosité écologique, mais on en parle justement tout de suite avec notre partenaire de l'Obs. Et comme chaque vendredi, à la fin du Grand Moudre, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec François Armanet. Bonsoir François.
Bonsoir.
Et cette semaine, vous nous proposez dans les pages débat de l'Obs un dialogue entre deux personnes qui parlent d'écologie. Alors il y en a une, c'est assez attendu, on va dire, c'est Nicolas Hulot. Le second est un petit peu plus surprenant.
Oui, mais c'est un débat entre Nicolas Hulot, qui est effectivement, comme vous venez de le dire, la personnalité préférée des Français et qui milite depuis vraiment de longues dates pour l'écologie. Mais le second, c'est Hubert Védrine, qui vient de se convertir à l'écologie, qui le raconte dans son nouveau livre qui s'appelle « Le monde au défi ». Et en fait, c'est un dialogue tout à fait passionnant entre les deux, qui démarre par d'abord un bilan de la COP21, enfin, ou de la situation. Alors bon, Hulot, de son côté, dit que l'accord est contraignant, mais qu'il n'y a ni clause de transparence, ni sanction prévue. Pour Hubert Védrine, lui, est très optimiste. Du reste, il a un terme qui est l'écologisation, c'est-à-dire un processus, pour lui, irréversible, qui va s'imposer peu à peu dans ce pays. Et le fait que l'accord soit pas contraignant, lui, ne l'inquiète pas. Il pense, en tout cas, qu'il y a une dynamique économique réaliste qui va vraiment s'imposer à l'heure actuelle. Du côté de Hulot, lui pense qu'il va falloir aussi inventer de nouvelles institutions internationales, que les institutions actuelles ne sont pas adaptées aux enjeux ni au long terme, ni universels. Il pense pas que ce cycle comme ça des conférences puisse, sur le climat, puisse se prolonger en permanence et que nous n'échapperons pas, là je le cite, à la création d'une organisation qui prenne en charge la gestion des biens communs planétaires. Donc, les deux, en tout cas, dialoguent beaucoup sur les instruments réels et indispensables si on veut pas basculer sur plus de conflits. Du côté d'Hubert Védrine, par exemple, lui, outre le prix du carbone, il pense en tout cas qu'on peut vraiment, enfin, que c'est une solution très efficace. Il pense aussi qu'on doit inventer le PIB écologique, dans lequel la mesure de la croissance serait réduite des atteintes portées au patrimoine écologique. Enfin, en tout cas, sur les deux, c'est tout à fait passionnant, c'est constructif, il y a des solutions, Et effectivement, avec la surprise de voir l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était plus connu pour d'autres engagements, basculer avec une conversion profonde pour l'écologie.
Voilà, et c'est donc à lire dans le dernier numéro de l'Obs. Merci à François Hermanet. Et merci à nos deux invités ce soir. Philippe Corcuff, je rappelle, Pour une spiritualité sans Dieu, c'est sorti il y a quelques jours de cela, aux éditions Textuelles. Merci à vous, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. C'est quoi la une cette semaine?
Pour moi, ce sera évidemment Avec Dieu, et c'est une enquête sur les premières communautés chrétiennes. Comment le christianisme a commencé? Et en fait, c'est pas si loin du thème qu'on a évoqué ce soir, ses débuts par des petites communautés utopiques.
Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Bayer, Hugo Florent, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Alexandre Dang. Lundi, nous posons la question suivante: 100 ans après, les accords Sykes-Picot ont-ils toujours bon dos?